Qu'est-ce que vous faites là à cette heure-ci?
Je pensais.
Alors?
Je pensais à la perruque de Robespierre. Bizarre, hein?
Nous voici au pays des boussoles affolées. C'est le 25 septembre 1922 qu'André Breton réunit les membres du mouvement surréaliste chez lui, au 42 rue Fontaine, à Paris. Une voyante vient tout juste d'apprendre à René Crevel des techniques de transe et Breton veut tenter l'expérience de façon sauvage. Les surréalistes font cercle autour de la table. Le temps devient glissant.
It's slippery in here.
Et c'est un autre poète, Robert Desnos, très jeune, 20 ans, qui est saisi par l'état visionnaire. Soudain, Desnos voit l'avenir et revit le passé. Mais il parle par énigme, de l'autre côté du miroir. Il annonce à Breton un voyage en Équateur lié à l'actrice Nazimova. Breton partira bien aux Amériques en 1941, mais ce sera pour échapper à l'occupant nazi. Puis Desnos devient obsédé par une vision. « Je suis balayé par la boue. Pourtant, j'étais le grand chef des balayeurs. »« Comment ?» lui demande Breton. « Vous étiez chef des balayeurs ?»« Oui, » reprend Desnos. « J'ai été nommé chef des balayeurs, mais voilà maintenant que c'est la boue qui me balaye. La boue. La boue. » Pendant l'occupation, lorsqu'il sera déporté par les nazis dans le camp de concentration de Theresienstadt, où il mourra en 1945, Desnos sera d'abord affecté à un poste de balayeur. Le 30 septembre 1922, une fois de plus, Breton pose les questions et Desnos, en état de transe, répond. « Où es-tu ?» demande Breton. « Robespierre, » répond Desnos. « Y a-t-il plusieurs personnes ?» La multitude, Robespierre. Puis Desnos parle d'une voix sourde, triste et menaçante. « Ils deviendront plus blancs que l'étendard aboré de la monarchie. Des lâches, et ce col blanc que vous me reprochez comme une parure inutile, vous jalousez le cou élégant qui en sort. Vous êtes des forgerons échappés de ces forges nocturnes. Nocturnes, la guillotine, je suis seul. Vous êtes la multitude et vous tremblez devant mon regard vert. Derrière Robespierre, qu'y a-t-il ? Reprend Breton. Un oiseau. Quel oiseau ? L'oiseau de paradis. Robespierre est un homme important pour Robert Desnos. Si important qu'en avril 1923, il giflera le journaliste Wayland Maher pour avoir écrit dans un article que Robespierre était une fripouille. Il recevra alors les félicitations de l'historien Albert Mathier. Robert Desnos n'est pas le seul à avoir vu en Robespierre une figure plus qu'humaine, une force, comme disait Victor Hugo. C'était déjà le cas de son vivant. Et cela ne sera pas sans lien avec sa mort, le dit Thermidor de l'an 2. Comme disait Hugo encore, la révolution aura été le plus puissant pas du genre humain depuis l'avènement du Christ. Mais c'est un pas qui nous a fait entrer dans une terre inconnue, un pays aux boussoles affolées. Depuis plus de 200 ans, tous ceux qui traversent l'histoire de France et arrivent au moment de la révolution sont soudain pris de vertige et se perdent dans le labyrinthe du temps. C'est un problème de perception.
The past dictates the future.
Le 21 janvier 1793, Louis XVI a été exécuté, mais il n'est pas mort. « Le soir de ce jour n'est pas terminé », écrira à son sujet Robert Desnos en 1927 dans « La liberté ou l'amour ».
Je trouve que cette nuit, la lune a la tête de Robespierre.
Le jour de la mort de Louis XVI n'est pas encore achevé, puisque la place qu'il avait occupée va provoquer les ambitions les plus folles qu'une boussole. La Révolution va faire apparaître des figures inquiétantes, comme Danton, des gens prêts à tout pour favoriser leur intérêt propre, des arnaqueurs de la pseudo-démocratie rendus méchants par l'envie, l'avarice et l'ambition, et qui vont devenir les modèles de notre classe politique actuelle.
Je sais d'où je viens.
Mais aussi des êtres qui ne respirent que l'intérêt général et la volonté de faire le bien, comme un certain Saint-Just. Avec Marat et Robespierre, une des figures les plus singulières de la Révolution. Tout est à revoir. Il va falloir à nouveau repartir dans le temps, retourner dans le passé pour avancer vers l'avenir et faire le pas de côté. We have to go back!
We have to go back!
Je m'appelle Pacôme Thielmont. Je ne suis pas historien, je suis exégète. Dans ce programme pour Blast, je m'inocule les poisons interprétatifs de l'histoire de France. Mais cette expérience ne prétend pas plus à l'exhaustivité qu'à l'objectivité. Elle est simplement la tentative de mettre en action, par la transe, la phrase célèbre de l'écrivain irlandais James Joyce, « L'histoire est un cauchemar dont j'essaye de m'éveiller ». Pour cet épisode, j'ai reçu l'aide de l'historien Raphaël Carbone et de l'historienne Marie-Aimée Romieux. Alors, si vous n'aimez pas mon histoire de France, écrivez la vôtre. You need to lay down and let me show you how we do this thing up in Funky Town. Bienvenue dans L'Empire n'a jamais pris fin, saison 2, épisode 7, Revolution number 9. Louis-Antoine de Saint-Just, dit Saint-Just, né le 25 août 1767 à Decize dans le Nivernais. Il meurt le 10 Thermidor an 2 à Paris. C'est le fils de Louis-Jean de Saint-Just de Richebourg, un capitaine de cavalerie, et de Marie-Anne Robineau. Il a deux sœurs, Louise-Marie-Anne et Marie-Françoise Victoire. Il passe son enfance à Nancelles, dans l'Oise. En 1776, les Saint-Just déménagent à Blérancourt. Le père meurt un an plus tard. Saint-Just est mis en pension au collège Saint-Nicolas de Soissons. Saint-Just s'engueule avec sa mère et part à Paris en emportant quelques pièces d'argenterie et une paire de pistolets. Sa mère produit alors une lettre de cachet et Saint-Just est placé en maison de correction, rue de Picpus. Il devient ensuite clerc à Soissons, puis s'inscrit à la faculté de droit de Reims avant de retourner à Blérancourt. Il écrit à Robespierre en août 1790. « Vous n'êtes point seulement le député d'une province, écrit Saint-Just, vous êtes celui de l'humanité et de la République. » Saint-Just s'ennuie à crever à Blérancourt. Il est élu député de l'Aisne le 5 septembre 1792 et arrive à Paris le 20 septembre. Il entre à la Convention à l'âge de 25 ans. 25 ans seulement. C'est le Benjamin de l'Assemblée, le Rimbaud de la Révolution. Est-ce que Saint-Just rejoint la montagne ?
Do birds fly ?
Bien sûr que Saint-Just rejoint la montagne. Nous voici au pays des boussoles affolées. Depuis l'exécution de Louis XVI le 21 janvier 1793, tout le monde, absolument tout le monde, se met sur la gueule. C'est la guerre entre les trois principales tendances politiques qui composent désormais l'Assemblée. Sur environ 700 députés, les Girondins à droite et les Montagnards à gauche forment autour de 200 députés chacun. Mais au centre, la plaine, qui regroupe les 300 autres, suit la Gironde sur à peu près tout depuis septembre 1792 et le début de la Convention. Sous la Convention, la France change de visage. Elle se déchristianise, se désanciens régimise. On détruit les statues des rois. C'est pas une si mauvaise idée. À l'emplacement de la statue de Louis XIV, qui fait le César de fortune sur son canasson Place des Victoires, Robespierre demande l'installation d'un monument aux morts du 10 août. Un député, Marant, qui porte bien son nom, pleure en voyant la destruction de la statue de Henri IV, le roi Stinkfoot. Petit problème, les mecs, c'est très rigolo, hein, mais le peuple est toujours aussi pauvre. Allô? En octobre 1792, le prix du blé atteint 45 livres l'hectolitre. Dans le midi, on se résigne à manger des herbes cuites, comme dans les pires jours du règne de Louis XIV. Et un peu partout, ça barde. Dans le peuple, on demande une meilleure répartition, et même, pourquoi pas, de tendre vers l'égalité. Une égalité pas seulement en droit, mais en fait. Ceux qui, comme Jacques Roux par exemple, demandent la limitation dans la liberté du commerce et la peine de mort contre les accapareurs vont être appelés les enragés. On retrouvera leur influence jusque dans le titre du journal mythique fondé par Ciné en mai 68, L'Enragé. Les enragés représentent la frange la plus radicale des sans-culottes et font souffler un vent proto-anarchiste dans l'époque révolutionnaire. La dimension proto-communiste, soit l'idée d'une mise en commun des moyens de production, arrivera plus tard, avec Gracchus Babeuf. Bien entendu, ni le communisme, ni l'anarchisme n'existent encore. Et si au départ, la montagne s'oppose aux enragés, leurs revendications vont la faire évoluer et abandonner le caractère jusque-là sacré de la propriété privée. En dépassant Robespierre sur sa gauche, les enragés vont l'encourager à transformer le premier des droits de l'homme et du citoyen. Robespierre veut désormais en faire le droit à l'existence et aux moyens de la conserver. Il le dit le 2 décembre 1792 dans un discours sur les subsistances. Je cite Robespierre. « La liberté du commerce est nécessaire jusqu'au point où la cupidité homicide commence à en abuser. Nul homme n'a le droit d'entasser des monceaux de blé à côté de son semblable qui meurt de faim. Tu crois que les Girondins écouteraient ? Tu rêves. Le 8 décembre, la Convention reconduit la politique de liberté illimitée de commerce, de défense des propriétaires et la loi martiale. Et les émeutes de subsistance vont se poursuivre tout le long du règne des Girondins. Comme dit Albert Mathier, toute la politique sociale des Girondins consistera à opposer les baïonnettes aux foules affamées. Nul du point de vue économique et social, les Girondins vont se rattraper avec les guerres de conquête. Nous ne pourrons être tranquilles que lorsque toute l'Europe sera en feu, déclare Brissot. Danger public ! Le 20 septembre 1792, c'est la victoire de Valmy contre l'armée prussienne commandée par le duc de Brunswick. Pas une bien grosse bataille, c'est une succession de coups de canon. Mais c'est une victoire importante d'un point de vue symbolique, parce que c'est la première victoire d'une armée de patriotes sur une armée de métiers. Le gagnant de Valmy, qui va faire le plus parler de lui, est un certain général Dumouriez. Et il a quelqu'un à ses côtés. C'est le neveu de Louis XVI, le fils de Philippe Égalité, Louis-Philippe d'Orléans, 19 ans, qui se fait appeler Égalité II, un vrai nom de robot.
How did we get into this mess?
Et qui serait pas contre amener sa fraise si jamais on basculait dans une monarchie constitutionnelle. Spoiler, on le reverra bien, Égalité II, mais plus tard, sous le nom de Louis-Philippe. Oui, ça craint. Quand Dumouriez déboule à Paris pour faire le coq après la victoire de Valmy, Danton et les Girondins se disputent jalousement son amitié. Danton, qui se montre partout à Paris à ses côtés, l'exalte dans ses discours. « Votre nom figurera dans les plus belles pages de notre histoire. » Trop pas ! Et Danton, toujours le nez dans ses testicules, l'oppose à un général précédent. Lorsque Lafayette, lorsque ce vil eunuque de la Révolution, prit la fuite, vous servîtes déjà bien la République en ne désespérant pas de son salut. Plein de cette grande tendresse de la France pour le monde, comme dirait Michelet, Dumouriez commence alors la conquête de la Belgique. Dumouriez entre à Bruxelles le 14 novembre 1792, puis à Liège le 23 et à Anvers le 30. Et le 15 décembre, les Girondins, qui se félicitent de ce type de saleté, signent un décret plaçant la Belgique sous tutelle de la France révolutionnaire. Danton fait alors un certain nombre d'allers-retours en Belgique, où il couvre de son autorité les malfaisances locales de ses missionnaires armés. Il se contente pas de ça, on s'en doute, c'est Danton. Il se fait ramener de Belgique deux voitures de biens précieux. Une voiture contenant pour 400 000 livres d'argenterie et une voiture avec 200 000 livres de linge appartenant initialement à l'archiduchesse Marie-Christine. La révolution est un business. We're only in it for the money. Brissot dit alors vouloir élargir les frontières de la France jusqu'au Rhin. Le 31 janvier 1793, Danton lui emboîte le pas et fait un discours totalement taré sur les frontières naturelles de la France à reconquérir. Je cite Danton, « Nous les atteindrons des quatre points de l'horizon. Du côté du Rhin, du côté de l'océan, du côté des Alpes, là doivent finir les bornes de notre République et nulle puissance au monde ne pourra nous empêcher de les atteindre. » Ok Louis XIV, le 1er février, la France déclare la guerre à l'Angleterre et à la Hollande. Le 7 mars, elle déclare la guerre à l'Espagne. Et dans les semaines qui suivent, on arrive à une coalition de tous les pays d'Europe contre la France. Super les mecs, super vraiment. Le 24 février 1793, Danton demande le recrutement de 300 000 hommes répartis entre tous les départements au prorata de la population. Allez, pour récupérer un peu plus de linge et d'argenterie, on va envoyer crever les enfants des pauvres. Et Dumouriez prend Breda, Dumouriez prend Berkopzoom. Enfin, le 18 mars 1793, Dumouriez livre la bataille de Neerwinden, qu'il perd. À la surprise de tous.
Et là, c'est le drame.
Les armées françaises reculent. Toute la Belgique est évacuée à la fin du mois de mars. et les frontières conquises à l'automne 1792 sont perdues en quelques semaines au printemps 1793. La guerre, elle, durera jusqu'en 1814 et ramènera la France, épuisée après une foultitude de conneries, à ses frontières de 1792. Sans les Girondins et sans Danton, soit des cons et un salaud, nous n'aurions peut-être eu ni Bonaparte, ni les millions de morts qui vont avec. Je pose ça là, comme on disait jadis sur les réseaux sociaux. Et là, qu'est-ce qu'il va faire, leur grand, leur formidable Dumouriez? Eh ben, il va pas se contenter de perdre. Il va se vendre à l'ennemi, direct. Le 4 avril 1793, le pote à Danton va cogner à la porte du prince de Saxe-Cobourg-Saffild. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut proposer un deal au prince de Saxe. Écraser la révolution en France et instaurer une monarchie constitutionnelle sous l'égide du bébé robot Égalité 2. Oh que voilà une intéressante proposition. Il est top votre copain. Celui qui se méfiait depuis longtemps de Dumouriez, c'est Marat. Mais personne l'a écouté, évidemment. Pire, c'était devenu une blague. Après la prise de Bréda, Brissot ironisait. On criait ce matin la grande trahison de Dumouriez par Marat. Ce Dumouriez trahissait son pays en prenant Bréda et en attaquant la Hollande par 5 points différents. C'est bête, un Brissot. Le 29 novembre, Marat avait formé le pari que Dumouriez trahirait avant la fin du mois de mars. La pitonisse ne s'était pas trompée de beaucoup. Dumouriez trahit en avril. Comme chante Prince, « Parfois il neige en avril. Parfois je me sens si mal. Parfois j'espère que la vie n'aura pas de fin. » Mais les bonnes choses, comme on dit, ne durent pas. Pour Brissot, les bonnes choses ne vont pas durer. Déjà détestés pour leur politique antisociale, les Girondins en ressortent encore un peu plus discrédités. Ils reportent alors la faute sur Danton. Les Girondins l'accusent alors d'avoir un accord secret avec Dumouriez pour rétablir la monarchie en France. Danton, se souviendra Levasseur, immobile sur son banc, relevait sa lèvre avec une expression de mépris qui lui était propre et qui inspirait une sorte d'effroi. « I just can't believe you are such a fool. » Peu importe qu'ils aient eu raison ou non, les Girondins ne mesurent pas les capacités d'enfumage du tribun. Ils jouent à la belote avec un joueur de poker. Danton Moretti se lève et renverse l'accusation en un tour de manche. Eux seuls sont les complices de la conjuration. Et c'est moi qu'on accuse. Moi, dit Danton. Bientôt, je tirerai la lumière de ce chaos. Les vérités s'amoncelleront et se dérouleront devant vous. Et Otto Acquitator se met toute la gauche de l'Assemblée dans la poche. Même Robespierre. Bientôt, il tirera la lumière de ce chaos. Pof, ce sera même le contraire de bientôt. Et ça restera un des points les plus obscurs de cette histoire. Que s'est-il passé entre Danton et Dumouriez? Y a-t-il eu un pacte secret entre les deux salopards pour renverser la convention? Ou Danton a-t-il joué sur tous les tableaux? Comme d'hab, bananant tout le monde et pompant du fric et des richesses partout en comptant bien ne jamais faire ce qu'il avait promis. Tout cela est possible. Ça lui ressemble. Mais cela reste au niveau de l'hypothèse. Et surtout, ce n'est pas le plus grave. Depuis qu'il est ministre, Danton n'a favorisé que des escrocs qui s'engraissent sur le business de la guerre. Comme l'abbé d'Espagnac, par exemple. Un fournisseur véreux qui empoche pour 5 millions de livres de matériaux militaires alors qu'il ne fournit que pour une valeur d'1,5 million. Et Danton a pris comme secrétaire Fabre d'Églantine, un homme de lettres cynique qui a démarré dans le théâtre où il prostituait les actrices avec lesquelles il couchait. Mais pas seulement. D'après les mémoires de l'ancien secrétaire de Camille Desmoulins, Roch Marcandier, Fabre a, entre autres, séduit une jeune femme, fait transporter ses meubles dans son domicile, puis l'a chassée le soir même en gardant les meubles. Il a volé une autre de ses maîtresses et a accusé du vol sa femme de ménage, qu'il a fait envoyer en prison. On l'a compris, ce n'est pas du tout un ami du peuple, Fabre d'Églantine. C'est juste un sale type. Improvisé fournisseur aux armées grâce à son poste de secrétaire de Danton, il empoche des avances sans exécuter les marchés. Et il accapare des chaussures qu'il vend ensuite aux soldats à des prix exorbitants. Sommé de se justifier sur les libertés qu'il a laissées à son poème de secrétaire, Danton dira, assez bizarrement, j'ai laissé à Fabre la disposition de toutes les sommes dont un secrétaire peut avoir besoin pour déployer son âme. Des sommes pour déployer son âme ? Quelle drôle de manière de parler. Mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est ça. Pour mener leur guerre, débile, après la prise de Longwy, le 28 août 1792, les Girondins ont mis alors à la disposition des cinq ministres de leur gouvernement la somme de 2 millions de livres pour dépenses extraordinaires, réparties en portions égales de 400 000 livres par ministre. Ils ont donc confié à Danton 400 000 livres. Or, le 10 octobre 1792, après la démission de Danton du poste de ministre de la Justice, le comité des finances de la Convention demande à celui-ci le rapport des comptes concernant les sommes mises à sa disposition. Et là, Danton prétend d'abord avoir déjà rendu ceci. Qu'on se rappelle que la patrie était en péril, que nous étions responsables de la liberté. Nous avons rendu nos comptes, j'ai rendu le mien particulièrement. Non. Les Girondins lui font remarquer que non, c'est pas le cas. Hein. Et ils insistent un peu. Danton commence alors à noyer le poisson. Lorsque l'ennemi s'empara de Verdun, lorsque la consternation se répandait même parmi les meilleurs et les plus courageux citoyens, l'Assemblée législative nous dit « N'épargnez rien, prodiguez l'argent ». Ouais, et donc ? Il est telle dépense qu'il ne peut énoncer ici. Il est tel émissaire qu'il serait impolitique et injuste de faire connaître. Il est telle mission révolutionnaire que la liberté approuve et qui occasionne de grands sacrifices d'argent.
Ok, ok, tu saoules. Donc,
pour la plupart de ces dépenses, j'avoue que nous n'avons point de quittance bien légale. Ah d'accord. Danton ne peut donc pas dire comment il a employé les 400 000 livres qui lui ont été confiés. 400 000 livres confiés par nos crétins de Girondins. Pas pour déployer l'âme de Fabre d'Églantine, mais pour nourrir et vêtir 300 000 gosses innocents, issus des classes pauvres que tu as envoyés crever dans vos guerres de rapines alors que tu rapportais du linge et des assiettes dans tes 15 000 baraques. C'est ça le plus grave. Le 21 janvier 1793, on a exécuté le petit Bourbon, mais la France nous a vomi un nouveau roi de l'arnaque. Deux mois plus tard, en mars 1793, l'Europe est entièrement liguée contre la France. Et Danton continue à conscrire à tour de bras. C'est le moment où la Vendée, hostile à la levée de masse, commence à se soulever. Ça y est, on y est. Le moment que tous nos hate watchers de droite attendaient. Oui, on vous voit dans les commentaires. Hein.
L'un des membres de la Terreur disait « Il faut exterminer la race vendéenne ».
Les guerres de Vendée. Alors à ce sujet, c'est important de ne pas se faire gaslight, comme disent les jeunes. On nous joue généralement la mélodie vendéenne sur une partition royaliste et catholique de la France éternelle. Mais déjà, Albert Mathier nous le rappelait, l'insurrection de la Vendée eut en premier lieu des causes d'ordre économique et social. Les raisons d'ordre politique et religieux ne vinrent qu'ensuite comme le corollaire des premiers. Oui, et c'est très important ça. Hein ? Que les rebelles vendéens aient eu des sympathies religieuses ou royalistes, c'est tout à fait possible. Mais ça ne devait pas les démanger tant que ça non plus. Ils ne se sont pas soulevés avec les nobles en avril 1791, ni pour sauver les prêtres en 1792. Pourtant, avec la déchristianisation, 25 000 prêtres ont dû quitter le territoire l'année précédente. Les Vendéens n'avaient pas bougé le petit doigt. Ils se sont soulevés en mars 1793, c'est-à-dire pour protester contre la conscription. Au départ, ce sont des gens qui ne veulent pas qu'on envoie leurs gosses se faire tuer. Et on les comprend. C'est aussi un problème de subsistance. Ils crèvent de faim. Ils sont d'ailleurs pas les seuls. Cette conscription en temps de famine va entraîner des protestations importantes dans un bon quart de la France. Des émeutes de ce genre, on en a d'abord dans le Nord, dans le Massif central, en Alsace. Alors, pourquoi cette focalisation sur la Vendée ? Eh bien, parce que le 19 mars 1793, dans un lieu-dit appelé Pontcharrault, à 80 km au sud de Nantes, une bande de paysans vendéens armés s'est retrouvée nez à nez face à une troupe de 3000 soldats venus de La Rochelle. Et contre toute attente, c'est pas la bande des paysans vendéens, c'est la troupe de 3000 soldats qui s'est pris la dérouillée de sa vie. Or, cette troupe est girondine. Et la veille, le 18 mars, les Girondins ont décrété de mort tous ceux qui réclamaient une répartition égalitaire des propriétés. Oui, les enragés. Par extension, les plus radicaux des sans-culottes auquel la montagne commence à prêter une oreille de plus en plus attentive. C'est la déculottée des Girondins qui permet alors aux sans-culottes de les ridiculiser. Non seulement les Girondins sont des affameurs, mais en plus, ils sont militairement nuls. Alors, ce qui aurait pu n'être qu'un incident isolé va se transformer en folie meurtrière collective. La Vendée va se retrouver au centre d'une guerre, non seulement contre les rebelles à l'autorité de la Convention, mais entre la montagne et la Gironde. La Gironde, pris en faute, fait alors passer une loi dégueulasse qui condamne à mort tous ceux qui seraient prévenus d'avoir pris part aux révoltes ou émeutes contre-révolutionnaires qui éclataient ou éclateraient à propos du recrutement. Marat, qu'on nous présente toujours comme la pire des brutes sanguinaires, est choqué. La mesure proposée la plus insensée, la plus indigne d'un être pensant et bien intentionné pour la République. Ce ne sont pas les hommes égarés contre lesquels il faut sévir, ce sont les chefs. Merci. Enfin, un type un peu sage dans cette mêlée de brutes. Mais personne n'écoute jamais Marat. On envoie alors des troupes de n'importe où, n'importe comment, et ces troupes sont battues, encore et encore. On envoie un copain de Danton, le général Westermann, qui va être appelé le boucher de la Vendée. Il va également être accusé de pillage. Et bientôt, il reviendra à Paris et dira fièrement avoir réglé le problème en tuant tout le monde. Ce n'est heureusement pas le cas. On envoie également le représentant Carrier, qui va faire pire. Westermann est un escroc, Carrier est un fou de guerre. Le 11 décembre 1793, il écrira au comité de salut public « Ce sont les femmes qui, avec les prêtres, ont fomenté et soutenu la guerre de la Vendée. C'est une engeance proscrite, ainsi que tous les paysans, car il n'en est pas un seul qui n'ait porté les armes contre la République. Il en faut absolument et totalement purger le sol. » Affreuse répression des Vendéens. Celle-ci va se continuer avec des pauses jusqu'en 1832 et faire à l'arrivée entre 150 000 et 200 000 victimes. Ces victimes, il est bien entendu hors de question de les passer sous silence. Mais il faut se mettre d'accord sur les véritables raisons et les véritables responsables de ce massacre. À la demande de Danton, le 6 avril 1793, l'Assemblée vote la création du Comité de salut public. Un comité de 12 membres, renouvelable chaque mois, et dont la fonction spécifique est de surveiller l'exécutif et de soumettre à la Convention des mesures de défense générale décidées de façon collégiale à la majorité des deux tiers de ses membres. Pourquoi a-t-on créé ce comité de salut public? Alors, 1. Parce que les Girondins ont déclaré la guerre dans le monde entier. Thank you, Captain Obvious.
My work here is done. I'm off to find others in need. God bless you, Captain Hartsart. God bless you.
Ah donc, il y a une menace d'invasion prussienne par le nord, il y a une menace d'invasion par les Espagnols sur le midi, et les Anglais occupent tous les ports français de l'Atlantique. Waouh ! 2. Parce qu'à l'intérieur, la Vendée est en état d'insurrection. Et Lyon et Bordeaux se soulèvent également contre la Convention. Le pays est réellement en danger. Le comité de salut public va siéger aux Tuileries et ne sera pas en majorité girondin. Mais il sera pas montagnard non plus. Il sera de la plaine. Sauf au départ, deux montagnards, dont Danton, évidemment. Robespierre n'entrera qu'au troisième comité, en juillet, alors que Danton en sortira en demandant alors à ne pas être réélu. Nous n'y sommes pas encore. La grande figure du comité de salut public, c'est un député de la plaine. Un député très difficile à saisir politiquement, qui s'appelle Barrère. Barrère n'a pas laissé un fort souvenir. Pourtant, il a vécu vieux pour un révolutionnaire. Plus de 80 ans. Il aurait été l'orateur le plus important de la Convention, intervenant à 1024 reprises. Il détient également le record de longévité au sein du comité de salut public, 17 mois. Et si quelqu'un veut visiblement en finir avec la Vendée, comme on dit, ce n'est ni Brissot, ni Danton, ni Robespierre. C'est Barrère. Barrère fait alors un discours définissant l'orientation politique de la Convention. Il rappelle que Caton l'Ancien avait décidé de détruire Carthage pour que Rome survive. Toujours leur référence romaine à la con.
It's coordinated propaganda.
Barrère exige alors quelques sacrifices pour assurer la survivance de la France. Marie-Antoinette, par exemple, qui va faire guillotiner. Mais aussi les brigands de la Vendée. Plus de Vendée, dit Barère, et les ennemis de la République ont disparu. Les Girondins ont empilé les conneries, mais ils sont encore au pouvoir. Ils vont faire une dernière de taille qui va les discréditer à tout jamais. Ce sera le procès de Marat. L'origine du procès est un placard sur lequel on peut lire un appel véhément demandant la révocation des Girondins. Le placard a été rédigé par le Club des Jacobins à la demande de Danton. Danton qui l'a encore mauvaise des remarques que les Girondins lui ont faites au sujet de ses comptes. Mais les Girondins l'ont attribué à Marat parce qu'il avait été un des premiers à le signer. Convoqué le 24 avril 1793, Marat risque alors la peine capitale. Le tribunal révolutionnaire étudie le dossier et constate qu'il est vide. Marat est acquitté et il est porté en triomphe par les sans-culottes. Les Girondins sont humiliés et ils sont fumasses. L'un d'entre eux, Louvet, compare désormais la Gironde à Brutus face à Marat qui serait César. Entre la vertu et le crime, guerre implacable, guerre éternelle, on ne vit point, il était impossible qu'on vit au dernier beau jour du Sénat de Rome. Caton négocie avec Catilina, ni Brutus embrassait César. Vous pouvez maintenant, c'est ça la méta, comme disent les jeunes. Hein. Brutus is the new cool. Pendant ce temps, que fait Robespierre? C'est vrai, ça fait un moment qu'on ne l'a pas entendu. Eh bien, Robespierre est malade, tout simplement, vraiment malade. Tout le temps fiévreux, dans son lit, à suer comme un bœuf. Il a un début de variole ou de tuberculose, on ne sait pas. Mais Robespierre sera désormais malade, et même très malade, jusqu'à la fin de sa vie. Et comme la République n'a toujours pas de constitution, ce que fait Robespierre, c'est qu'il commence à élaborer une nouvelle déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Plus ambitieuse que celle de 1789 et qui servirait de préambule à une nouvelle constitution. Robespierre la lit aux Jacobins le 24 avril 1793. Celle-ci est clairement une critique des conceptions politiques de la Gironde qui sacralise la propriété. Alors il n'invente pas le communisme non plus, hein. C'est pas ce que je dis. Ce que Robespierre veut faire, et c'est déjà pas mal, c'est appliquer à la liberté du propriétaire le principe qui limite l'usage de toute liberté, le respect de la liberté de l'autre. Et l'autre point important, c'est la guerre. La guerre doit être sévèrement encadrée. Elle ne peut plus être, comme elle l'est actuellement, une guerre de conquête ou de rapine. Je cite Robespierre. Article 1. Les hommes de tous les pays sont frères. Et les différents peuples doivent s'entraider selon leur pouvoir, comme les citoyens du même État. Article 2. Celui qui opprime une nation se déclare l'ennemi de toutes. La déclaration contient également une demande de transparence totale de la part des politiciens et une reconnaissance du droit de changer de gouvernement, de révoquer ses mandataires, y compris par l'insurrection. Article 33. Les délits des mandataires du peuple doivent être sévèrement et facilement punis. Nul n'a jamais droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens. Article 34. Le peuple a le droit de connaître toutes les opérations de ses mandataires. Ils doivent lui rendre un compte fidèle de leur gestion. Je veux que tous les fonctionnaires publics nommés par le peuple puissent être révoqués par lui selon les formes qui seront établies, sans autre motif que le droit imprescriptible qui lui appartient de révoquer ses mandataires. Robespierre n'est alors pas très loin du mandat impératif révocable. Quelque chose qui sera promulgué sous la Commune et qui est encore aujourd'hui un horizon non atteint par deux siècles de soi-disant démocratie.
De quelle République ?
Nous sommes en mai 1793 et avec l'écriture par Robespierre de cette nouvelle déclaration, le combat entre la Gironde et la montagne entre dans sa phase finale. Le 8 mai 1793, Vergniaud, un Girondin, déclare « La propriété est menacée et il faut intervenir ». Attendez les mecs. Les défaites militaires s'enchaînent. Le pays est à feu et à sang. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces têtes de lard? Ils vont tenter un coup de force en créant une commission spéciale, la commission des 12. 12 parmi lesquels 7 Girondins, et dont le rôle est d'examiner la situation politique et de rechercher les complots qui menaceraient la liberté ou la loi. On les voit venir à 100 mètres. De plus, comme ils se méfient de Paris, trop à gauche, et de l'importance prise par les sans-culottes, les Girondins veulent casser l'autorité de ces derniers en les remplaçant par des présidents des sections départementales. Brissot a tombé le masque depuis longtemps. Il n'empêche, c'est pire à chaque phrase. Le peuple est fait pour servir la révolution, mais quand elle est accomplie, il doit rentrer chez lui et laisser à ceux qui ont plus d'esprit que lui la peine de le diriger. Non mais mec, tu nous parles sur un autre ton ? C'est pourquoi Jean Jaurès ne marchera pas à l'idée que les Girondins étaient de grands fédéralistes. Une fadaise qu'on nous resserre à toutes sortes d'occasions pour l'opposer au jacobinisme qui serait centralisateur. Ce qui veut strictement rien dire. Dans un essai récent très utile, Haro sur les Jacobins, Côme Simien et Guillaume Roubaud-Kouachi écrivent « Au point de départ de nos traditions démocratiques, de notre vie publique, il y aurait eu deux modèles clairement distincts de république, et celui qui serait le nôtre ne serait pas tout à fait le bon, puisqu'il serait, on l'a compris, le jacobin. Tout ce qui vient de Paris, tout ce qui est exigence de l'État, jacobinisme. Tout ce qu'il faudrait atteindre pour aller mieux, girondinisme. » Or, le rappellent nos deux auteurs, ce n'est pas chez Brissot qu'on peut trouver l'idée d'émanciper les régions du pouvoir central, mais chez Robespierre ou Saint-Just. Fuyez la manie ancienne des gouvernements de vouloir trop gouverner, dit par exemple Robespierre le 10 mai 1793, laisser aux communes le pouvoir de régler elles-mêmes leurs propres affaires. Bien au contraire, le projet girondin de février 1793 est centralisateur. Il prévoit un exécutif bien plus fort que tous les projets montagnards, adopte le principe d'une même loi applicable à l'identique dans toutes les parties du territoire et n'admet aucune diversité dans les modes de gestion. Rien à voir avec une logique de décentralisation. C'est parce qu'ils craignaient les sans-culottes que les Girondins ont exalté la vie des départements, voire pensé à installer l'Assemblée dans une autre ville que Paris, Bourges par exemple. C'est parce que Paris est devenu l'autre nom de l'insurrection. Écoutez Isnard, plus stupide que jamais, le 25 mai 1793. Je cite Isnard. Si par ces insurrections toujours renaissantes, il arrivait qu'on portât atteinte à la représentation nationale, je vous le déclare, au nom de la France entière, Paris serait anéanti. Bientôt, on chercherait sur les rives de la Seine si Paris a existé. Alors, malgré son extrême faiblesse, Robespierre, qui était absent pour cause de maladie du 13 au 24 mai, intervient le 26 pour inviter le peuple à se mettre en insurrection contre les députés corrompus.
Les Français n'aiment pas les hommes tristes.
Tu étais triste.
Consumé par la fièvre, il se dit incapable de prendre la direction du mouvement insurrectionnel et exhorte la commune à le faire. À ce moment, le club des Jacobins est présidé par une femme très radicale, Claire Lacombe, une enragée, qui a fondé avec Pauline Léon la Société des Républicaines Révolutionnaires. Le 19 mai, elle avait exigé des mesures rigoureuses non seulement contre les Girondins, mais contre tous les agioteurs. Il existe un complot affreux de faire mourir de faim le peuple en portant les denrées à un prix énorme. À la tête de ce complot est l'aristocratie mercantile d'une caste insolente qui veut s'assimiler à la royauté et accaparer toutes les richesses en faisant hausser les denrées de première nécessité au gré de sa cupidité. Exterminer tous ces scélérats. Toujours en mai, Claire Lacombe et un groupe de républicaines voient dans les tribunes de la Convention l'étrange Théroigne de Méricourt, avec Olympe de Gouges, une des deux figures proto-féministes des débuts de la Révolution, défenseuse d'une égalité des droits hommes-femmes. Mais girondine est donc venue soutenir Brissot. Claire Lacombe et ses copines l'encerclent, la dénudent et décident de la fesser publiquement. C'est Marat, le si violent Marat, qui s'interpose pour leur faire relâcher Théroigne. Ce mois de mai de fou s'achève en apothéose dans les journées du 31 mai et du 2 juin, où les sans-culottes prennent les armes contre les forces de la Gironde. Journée qui aboutissent à l'arrestation de 31 députés girondins jugés responsables de cette tentative de coup de force ou de coup d'État. Beaucoup de sans-culottes demandent qu'ils soient exécutés. Et Robespierre s'y oppose. Il est encore assez ferme sur ces questions, même s'il a précédemment demandé la mise à mort de Louis XVI. Les Girondins se contentent de perdre leur fonction de député et sont assignés à résidence, gardés par un gendarme. Robespierre se réjouit que cette révolution ait eu lieu sans effusion de sang. Il s'est réjoui trop vite. Le sang arrive bientôt. 12 Girondins s'enfuient dès le premier jour. 8 autres le lendemain. Pas très efficaces, les gendarmes. Alors, ce serait de bonne guerre si ceux qui ont pris la fuite n'allaient pas faire une chose tout à fait dégueulasse. Ils vont alimenter les révoltes en province affiliées aux royalistes. Ils vont enflammer Caen, Bordeaux, Marseille, Fin juin 1793, 60 départements français entrent en rébellion contre la Convention avec l'aide des Girondins. Nos petits brissotins vont tellement pleurnicher sur leur petit pouvoir perdu que ça va exciter une passionnée de Rousseau et lectrice de presse révolutionnaire girondine, Charlotte Corday. Et le 13 juillet 1793, Charlotte Corday, bien chauffée par les Girondins, décide d'aller poignarder Marat. Elle se rend à la Convention. Elle y apprend que Marat, très malade, ne s'y rend plus. Oui, parce qu'il est très malade lui aussi, Marat. Presque mourant, il a peut-être une lèpre, peut-être un psoriasis, peut-être une syphilis, on ne sait pas. Mais il a si mal qu'il est obligé de rester tout le temps dans son bain pour apaiser ses souffrances. Alors Corday se rend chez Marat. Tout d'abord, elle se fait jeter par Simone Évrard, la compagne de Marat. Mais elle lui fait passer un message pleurnichard, appelant à sa compassion. « Il suffit que je sois bien malheureuse pour avoir droit à votre bienveillance. » Et Marat qui est facilement émue par les malheureux, dit à Simone Évrard de la faire entrer. Charlotte Corday entre, et une fois la porte refermée derrière elle, elle plante son poignard dans le ventre de notre graphomane préférée. Et c'est cette femme dont on va faire une héroïne, une sainte. C'est quand même pas très glorieux. Assassiner un homme chétif, malade, voire mourant, immobilisé dans sa baignoire, incapable de se défendre ou de s'enfuir, après l'avoir dupé avec une lettre de pseudo-victime. On va pas applaudir, pardon, dans aucun monde, dans aucune version de la réalité. Mais ça y est. Les Girondins sont hors jeu, appu, finito.
Tu sais ce que les types m'ont dit, depuis que je perds, y'a plus de consommateurs, le marron devient même du yellow, je suis magicien, je suis un transformateur.
Bye bye Brissot.
Bye, have a great time.
Que deviennent alors les trois figures principales de la montagne? Marat, mort. Danton.
Je me tire.
Danton s'est mis au vert. Il a perdu sa femme en février et en a repris immédiatement une autre. Une petite voisine de 16 ans qui gardait ses enfants, Louise. Il a décidé de prendre des vacances du comité de salut public pour s'occuper de ses propriétés à Arcis-sur-Aube avec Louise. Et Robespierre? Eh ben, Robespierre, coup de théâtre, sort de son lit et entre au 3e comité de salut public le 27 juillet 1793. C'est à partir de ce moment-là et pour une durée d'un an que la question du rôle de Robespierre dans la Révolution va sérieusement se poser.
Tout est perdu, n'est-ce pas ?
Jusque-là, Robespierre a beaucoup parlé, beaucoup écrit, il s'est beaucoup manifesté, mais il n'a pas beaucoup été écouté ou appliqué politiquement. Il a été populaire, il a pu avoir de l'influence, mais il n'a pas eu de pouvoir. C'est maintenant le cas. Et c'est maintenant que tout va devenir beaucoup plus compliqué à analyser. À partir du 27 juillet 1793 et son entrée au comité de salut public, Robespierre, qui était jusque-là le premier à vouloir éviter toutes les guerres, va se mettre à celles qui sont déjà en cours. Et il va s'y mettre sérieusement. A-t-il changé ? Pas vraiment. Parce qu'il s'agit désormais de guerres défensives et non plus de guerres de conquête. C'est à la fois le pays et la Révolution qui sont en péril et qu'il va falloir sauver de la destruction. C'est que, au moment où Robespierre entre au comité, la situation n'est pas grave, elle est désespérée. Le 28 juillet, capitulation de Mayence. Le 29 juillet, capitulation de Valenciennes. La route de Paris est alors ouverte aux armées ennemies. Aux Pyrénées, l'Espagne avance et menace Perpignan. On voit une alliance entre les Girondins et les royalistes pour soulever les départements, et même une alliance entre les royalistes et les Anglais. Puisque les premiers, rappelant soudain lointainement les Bourguignons quand ces derniers avaient perdu la guerre civile contre les Armagnacs, livrent tout simplement Toulon aux Anglais. Avec le comité de salut public, Robespierre va faire la guerre pendant un an. Et ça, où leur stratégie marche. Le plus clair, sur l'année passée par Robespierre au comité de salut public, c'est le nombre de victoires obtenues sur des guerres qu'on pensait perdues. Alors on parlera surtout de Lazare Carnot. membre du comité de salut public, qui n'est pas un ami de Robespierre et qu'on fêtera ensuite comme l'organisateur de la victoire, sans doute parce qu'il n'était pas un ami de Robespierre. Mais ce serait oublier le rôle crucial de Couthon, très vaillant et très courageux, qui se déplace sur sa chaise roulante, en mission dans les Alpes, le Puy-de-Dôme ou Lyon, et qui tient à s'assurer que la répression sur les ennemis de la Révolution ne touche que les meneurs. Et Saint-Just. Saint-Just qui améliore la communication aux armées et surtout le contrôle des fournitures, en ne passant plus par des fournisseurs escrocs, comme précédemment cette crapule d'Abbé d'Espagnac, le pote de Danton. Alors les résultats se font pas attendre, hein. Les Anglais reculent et essuient deux défaites successives. Lyon est reprise le 9 octobre, Toulon en décembre. Et le 26 juin 1794, ce sera la victoire de Fleurus. Robespierre, écrit carrément Albert Soboul, fut par là même l'artisan de l'indépendance nationale. Peut-être exagère-t-il, peut-être pas. Disons simplement qu'une fois que Robespierre, Couthon et Saint-Just auront sérieusement contribué à sauver la France et la République de l'anéantissement dans laquelle les Girondins l'ont entraîné et par laquelle Danton s'est enrichi en laissant les gamins crever, on les tuera. Et ensuite, on les accusera de tous les crimes possibles et imaginables. Parce que tout de même, c'est assez fou pour qu'on s'y attarde, hein. Pendant 200 ans, et jusqu'à aujourd'hui, hein, on ne va cesser de répéter comme des perroquets une légende maudite, la légende noire de Robespierre. Celle-ci se joue en plusieurs temps. Premier temps, on confond le tribunal révolutionnaire et la terreur. Alors la terreur a beau être utilisée pour définir une époque. En tant que telle, elle n'a jamais été promulguée. Elle a été appelée, souhaitée, désirée, discutée. L'historien Jean-Clément Martin ne cessera de le répéter une fois qu'il en aura pris conscience. On parle de mettre la terreur à l'ordre du jour. C'est Danton d'abord, ce sont les sans-culottes ensuite qui vont appeler à mettre la terreur à l'ordre du jour à partir d'août 1793. Mais non seulement on ne le fait jamais, mais on fait tout pour ne pas le faire. Ce qui a été installé, en revanche, c'est le tribunal révolutionnaire, à la demande de Danton. La raison donnée par Danton est liée au massacre de septembre. Je cite Danton, « Soyons terribles pour dispenser le peuple de lettres. » Et c'est ce tribunal révolutionnaire qui va être peu ou prou confondu avec la terreur. C'est-à-dire l'idée qu'il faut passer par une prise en charge de la violence par l'État pour éviter les débordements de la colère populaire. Un peu comme pour l'épuration après la Seconde Guerre mondiale. Il y a une logique là-dedans, même si celle-ci est évidemment discutable. Deuxième temps, on va faire de Robespierre celui qui voulait la terreur, ou celui qui voulait le tribunal révolutionnaire. Pour cela, le film de 1989, celui du bicentenaire, La Révolution française, dans sa deuxième partie, Les années terribles, pas réalisé par Robert Andricot, mais par Richard T. Effron cette fois, invente tout simplement un événement qui n'a jamais eu lieu. Robespierre réclamant la création du tribunal révolutionnaire à Danton.
C'est ça que tu veux.
Ce que je veux, c'est un nouveau tribunal révolutionnaire.
On nous traite déjà de dictateurs. Ils en profiteront pour en rajouter.
Ils se sont pas fait chier, hein. Quand on n'a pas d'éléments historiques pour nourrir une thèse mensongère, on les invente. Pourquoi se gêner?
Votre réputation d'homme brutal, grossier, vulgaire est bien méritée.
Et pas la tienne. Tu n'as pas de couilles, Robespierre.
Quel a été le rôle joué par Robespierre dans les violences de l'époque? Eh ben, c'est très difficile à dire. Tout d'abord, le comité de salut public joue un rôle lié à la défense du pays. Coordonner les campagnes militaires et rétablir l'ordre intérieur. Ceux qui s'occupent de la police politique, la surveillance intérieure, la police et les arrestations, ce sont les membres du comité de sûreté générale. Même si c'est encore aujourd'hui l'objet de controverses entre historiens, c'est essentiellement le comité de sûreté générale et non le comité de salut public qui organise la répression et les exécutions de cette époque. Ensuite, le comité de salut public est collégial. Robespierre est un des 12 membres. Il n'a qu'un 12e d'autorité. Certes, deux des autres membres sont ses amis. Ils sont sur la même ligne que lui. Saint-Just et Couthon. Mais d'autres ne le sont pas du tout. La suite nous le prouvera bien assez. Robespierre, qui est tout le temps malade, est largement moins assidu que Barrère ou que Carnot, pour en citer deux qui ne sont pas sur sa ligne, alors pas du tout. Et il y rédige largement moins de décisions. Enfin, quand on étudie ses interventions, Robespierre semble surtout régulièrement essayer de mettre fin à la violence continuelle de cette période de la Convention. Par exemple, en octobre, lors du procès qui mène finalement à la mort les députés girondins arrêtés en juin, alors qu'il réussit à en sauver 73 autres, premier l'exécution, il déclare, un peu comme Marat avant lui, « La Convention nationale ne doit pas chercher à multiplier les coupables. C'est au chef de la faction qu'elle doit s'attacher. Je dis que la dignité de la Convention lui commande de ne s'occuper que des chefs. » Troisième temps. On va tenir Robespierre responsable des atrocités commises en Vendée, à Lyon et dans le Midi. Répression qu'il n'a même pas initiée, on se le rappelle. Il arrive 5 mois plus tard. Il n'empêche, on les lui attribuera. Pourtant, on peut se permettre d'en douter. D'ailleurs, beaucoup d'historiens rigoureux en douteront. Il y a des raisons pour cela. Un exemple. Robespierre envoie Marc-Antoine Julien de Paris en mission en Vendée pour inspecter le comportement de Carrier. Julien lui écrit le 16 Pluviose en deux. Il, c'est Carrier. Il a fait prendre indistinctement, puis conduire dans des bateaux et submerger dans la Loire tous ceux qui emplissaient les prisons de Nantes. Il m'a dit à moi-même qu'on ne révolutionnait que par de semblables mesures. Il faut réprimer les élans despotiques de Carrier. Robespierre demande alors le rappel de Carrier. Puis Julien informe Robespierre des horreurs commises à Bordeaux par Tallien, un ami de Danton. Robespierre demande le rappel de Tallien. Protégé par le général Barras, Fréron a fait fusiller des centaines de Toulonnais. De plus, Barras et Fréron, deux amis de Danton évidemment, ont détourné à leur profit 800 000 livres envoyés par le comité des finances en prétextant les avoir perdus quand leur voiture était tombée dans une mare. Oui, voilà le genre de mec. Robespierre rappelle Barras et Fréron. Robespierre rappelle enfin Fouché, qui fait des massacres à Lyon. Alors bien sûr, la distribution des responsabilités dans cette séquence est difficile à établir. Mais s'il me semble tout de même que Robespierre a bien moins encouragé au massacre qu'il n'a cherché à les empêcher, c'est que ce sont tout de même eux. Eux, c'est-à-dire Carrier, Tallien, Barras, Fréron et Fouché, qui vont s'entendre ensuite comme larron en foire pour faire chuter Robespierre quelques mois plus tard. Si Robespierre avait été initialement favorable à leur massacre, aurait-il vraiment eu besoin d'en finir avec lui ?
Elementary, my dear Watson, all that shit.
Ses ennemis lui reprochent d'avoir envoyé dans les départements des proconsuls sanguinaires, écrira sa sœur Charlotte Robespierre dans ses mémoires. Et c'est lui, au contraire, qui fit rappeler presque tous ceux qui abusèrent de leur pouvoir illimité pour exercer des cruautés affreuses. C'est lui qui ne cessait d'écrire aux représentants du peuple en mission qu'il fallait être sobre de rigueur et faire chérir la révolution au lieu de la faire haïr. Plusieurs fois, il demanda, sans pouvoir l'obtenir, le rappel de Carrier que protégeait Billaud-Varenne. Je fus présente à l'entrevue que Fouché eut à son retour avec Robespierre. Mon frère lui demanda compte du sang qu'il avait fait couler et lui reprocha sa conduite avec une telle énergie d'expression que Fouché était pâle et tremblant. Il balbutia quelques excuses et rejeta les mesures prises sur la gravité des circonstances. Robespierre lui répondit que rien ne pouvait justifier les cruautés dont il s'était rendu coupable, que Lyon, il est vrai, avait été en insurrection contre la Convention nationale, mais que ce n'était pas une raison pour faire mitrailler en masse des ennemis désarmés. À dater de ce jour, Fouché fut l'ennemi le plus irréconciliable de mon frère. Certes, le livre de Charlotte n'est pas un document impartial, loin de là. Il oppose une légende dorée à une légende noire, mais celle-ci est sans doute plus proche de la réalité. En effet, dans une de ses dernières interventions aux Jacobins, le 26 Messidor en deux, Robespierre demande bien l'exclusion de Fouché, en lui disant de cette espèce d'homme dont je cite « La terreur était le moyen dont il se servait pour forcer les patriotes au silence. Il plongeait dans les cachots ceux qui avaient le courage de la rompre. Il me dira que ce sont les principes de la Convention qu'il a professé. L'intention de la Convention n'est pas de jeter la terreur dans l'âme des patriotes. » Que se passe-t-il concrètement lors de l'unique année de Robespierre au sein du comité de salut public, qui est aussi l'unique année où la Convention bascule vraiment du côté de la montagne et de la gauche de la plaine. Eh bien, ce sont essentiellement des réformes démocratiques et sociales. 23 juin 1793, abolition de la loi martiale qui permettait de tirer sur une foule protestataire. 27 juin 1793, nouvelle constitution précédée d'une déclaration des droits qui établit un devoir d'assistance aux malheureux et l'accès de tous à l'instruction.
L'extrême gauche veut la guerre civile. L'extrême gauche veut la guerre civile, en tout cas l'affrontement.
Le 26 juillet, la Convention vote la liste des produits de première nécessité, subsistance et matières premières nécessaires aux artisans. Le 27, elle fait de l'accaparement des marchandises et denrées de première nécessité un crime capital. Désormais, toutes les denrées de première nécessité seront sous le contrôle des autorités. Il est décidé le 9 août qu'un grenier d'abondance sera créé dans chaque district pour réguler la circulation des grains. Et le 5 septembre 1793, Robespierre fait adopter la loi dite du maximum, l'établissement d'un prix maximal fixé pour tous les produits à vendre et non plus seulement pour les grains. Ceux qui contreviennent tombent sous le coup de la loi des suspects. La priorité est que tout le monde soit nourri. Cette loi, concession aux sans-culottes, ne sera pas sans poser de problème. La faire adopter comme loi est une chose, la faire appliquer en est une autre. En octobre, à la tribune de la Convention, Saint-Just déclarera « Les lois sont révolutionnaires, ceux qui les exécutent ne le sont pas. Tout le monde a pillé l'État. Les généraux ont fait la guerre à leur armée, les possesseurs des productions et des denrées, tous les vices de la monarchie enfin, se sont liés contre le peuple et contre vous. » 6 octobre 1793, ou 15 Vendémiaires en deux, entrée en vigueur du calendrier républicain, dont l'auteur est le copain de Danton, Fabre d'Églantine, qui a pour date initiale le 1er Vendémiaire en 1, lendemain de l'abolition de la monarchie, premier jour de l'ère des Français. Parenthèse. Ce nouveau calendrier n'était pas du goût de Robespierre, qui avait tenté de s'opposer à son institution. Il le détestait. On trouve même dans son carnet le vœu de le faire ajourner indéfiniment. Mais ce ne sera pas le cas. Cela dit quelque chose de son autorité également. Si Robespierre avait été un dictateur, si toute la Convention avait été à sa botte, on n'aurait pas changé de calendrier. On reprend. Le 29 primaire en deux. Pardon Robespierre, on continue avec ce calendrier. Institution de l'école primaire gratuite et obligatoire. Le 15 pluviose en deux. Décret de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Esclavage qui sera rétabli par Napoléon Bonaparte le 20 mai 1802. Et puis, sous l'impulsion de Saint-Just, les décrets de Ventose, accaparement de ce qui appartient aux ennemis de la Révolution pour les distribuer gratuitement aux sans-culottes pauvres.
L'extrême gauche veut la guerre civile.
En dehors de ça, qu'a-t-on reproché à Robespierre et à ses amis Couthon et Saint-Just ? Deux crimes. Deux crimes que Robespierre assumera publiquement. Premier crime, l'exécution des hébertistes. Du nom d'un certain Hébert, qui publie depuis 1790 un journal écrit dans une sorte de style artificiel, un argot forcé pour faire peuple, le père du chêne. Hébert se donne comme le porte-parole des sans-culottes, mais il mêle à ça un bellicisme acharné, encore un qui veut imposer la révolution de force dans le monde entier, et surtout une surenchère à la peine de mort. Il veut faire tuer tout le monde.
Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crées.
Dans le numéro 350, il parle de Sainte Guillotine comme la pierre philosophale.
La quoi ? La pierre philosophale.
Je cite Hébert. Brave bougre qui composait le tribunal révolutionnaire, ne vous amusez donc pas à la moutarde. Faut-il donc tant de cérémonies pour faire raccourcir des scélérats que le peuple a déjà jugés ? Alors que Marie-Antoinette attend son exécution, quelques jours avant qu'on ne lui coupe la tête, Hébert régale ses lecteurs avec un portrait à charge. La tigresse autrichienne était regardée dans toutes les cours comme la plus misérable prostituée de France. On l'accusait hautement de se vautrer dans la fange avec des valets et on était embarrassé de distinguer qui était le goujat qui avait fabriqué les avortons éclopés, bossus, gangrénés, sortis de son ventre ridé à triple étage. Putain, quel enfer ce pseudo-style. Hébert va aussi prétendre que Marie-Antoinette pratiquait l'inceste avec son fils. Ce qui va se répandre dans toute la ville et arrivera jusqu'au procès de celle-ci où cette accusation la fera exploser en sanglots. L'exécution de Marie-Antoinette sera ensuite présentée comme la plus grande de toutes les joies du père Duchesne. On a connu des joies plus touchantes. Fort des succès du père Duchesne, Hébert va briguer le poste de ministre de l'Intérieur. Mais le 20 août 1793, c'est l'ancien clerc de Danton, pas Paré qui est nommé à ce poste. Alors Hébert va s'acharner contre Danton et tous ses potes. Il va dénoncer leurs méfaits. Et là, faut l'avouer, il y a de la matière. Il y a qu'à se baisser. Et Hébert va demander la tête de Danton. Et Danton va vouloir la tête d'Hébert. Il va même revenir à Paris pour ça. Et Danton va réussir à convaincre Robespierre de combattre Hébert avec lui en titillant sa fibre mystique. Parce que Hébert n'est pas seulement un pamphlétaire exécrable, c'est également un propagandiste infatigable de la déchristianisation, à laquelle Robespierre était très hostile. Même s'il n'est pas chrétien, Robespierre croit en Dieu. Il croit aussi, très important, à la liberté de culte. Pendant un moment, Danton et Robespierre vont se retrouver ensemble pour attaquer Hébert et le mener à son exécution. Est-ce que Hébert méritait la pierre philosophale ? La guillotine. Non. Non. Mais vu comment il l'a souhaité à tous les autres, et vu l'extrême vulgarité de sa réaction à l'exécution de Marie-Antoinette, mes yeux sont un peu secs, j'avoue. Et le lendemain de l'exécution de Hébert et des hébertistes, coup de théâtre. Danton et ses amis réclament le renouvellement du comité de salut public. Pourquoi ? Peut-être par crainte d'avoir à leur tour à rendre des comptes sur leurs rapines et exactions passées. Peut-être pour remettre en selle quelques salopards qui pourraient aller faire du business de la guerre, quelques fournisseurs aux armées bien douteux qui ont été laissés sur la touche par la méthode Saint-Just. Mais Danton et ses amis vont faire passer ça pour le désir de passer à un gouvernement plus modéré. Et la fin des exécutions sanglantes. Exécution qu'ils venaient de réclamer pour Hébert et ses potes. Fallait oser. C'est Danton, il ose. Et Camille Desmoulins, devenue très proche de Danton, va publier un nouveau journal, Le Vieux Cordelier, dans lequel il demande la sortie immédiate de ces années terribles. Voilà le second crime qu'assumera Robespierre, l'exécution des Dantonistes. C'est même pas lui qui lance l'attaque. C'est deux autres membres du comité de salut public, Billaud-Varenne et Collot d'Herbois. Et tout d'abord même, Robespierre avait essayé de les convaincre de n'en rien faire. La première fois que je dénonçais Danton au comité, racontera Billaud-Varenne, Robespierre se leva comme un furieux, en disant qu'il voyait mes intentions, que je voulais perdre les meilleurs patriotes.
Car que peut-on objecter à un homme qui a raison et qui sait mourir pour son pays? Je suis fait pour combattre le crime, non pour le gouverner.
Mais les membres du comité sont insistants. Et ils finissent par acculer Robespierre à accepter l'arrestation de Danton et des modérés.
Tu n'as pas de couilles, Robespierre. Tu es un eunuque.
Parmi lesquels son vieil ami, Camille Desmoulins, qu'il essaye alors de disculper par les mots. Les écrits de Camille sont condamnables sans doute, cependant il faut distinguer sa personne de ses écrits. Robespierre peine à convaincre les autres membres du comité. Il va devoir assumer leur arrestation le 10 Germinal an 2. C'est Saint-Just qui rédige le rapport d'accusation de Danton, extrêmement sévère. Intrigue avec Mirabeau. Tractation secrète avec la cour. Liaison louche avec Dumouriez. Compromission avec les Girondins. Lors du procès, le 11 Germinal, Robespierre parlera même contre Danton. Et il ira assez loin. Nous verrons dans ce jour si la Convention saura briser une prétendue idole pourrie depuis longtemps ou si dans sa chute, elle écrasera la Convention et le peuple français. Dans un film d'un révisionnisme hallucinant, Danton d'Andréïs Vajda, une production d'État commanditée par la présidence de Mitterrand et carrément financée à 12% par le gouvernement français. Oui, oui, vous pouvez vérifier, c'est officiel. Danton, joué par l'inévitable Depardieu, n'est pas suspect de liaison louche ou d'arnaque financière. Non. Comme le dit un citoyen à la tribune, c'est la jalousie qui est à l'origine du procès.
La jalousie qui ont provoqué cette décision scandaleuse.
Robespierre et les autres sont jaloux. Oui, une défense Hanouna. Après la défense Sarkozy de Louis XVI, une défense Hanouna de Danton. En réalité, Albert Mathis a raison de dire que le procès de Danton et de ses complices n'est pas tant le procès de modérés que celui de députés d'affaires. ce point occulté est un des plus graves des films sur la Révolution, que ce soit le Henrico, le Effron ou le Vache d'Ar. C'est comme si on réalisait un film sur Sarkozy en occultant l'affaire libyenne. Évidemment, Danton est coupable. Méritait-il la mort pour autant ? En tout cas, celui qui mérite sans doute encore moins la mort, c'est Camille Desmoulins, qui n'est lui qu'une victime collatérale du dantonisme. Le 13 germinal en deux. Quand on lui demande son âge, Camille répond « Benoît Camille Desmoulins, âgé de 33 ans, âge de Jésus, critique pour les patriotes. » Pendant ce temps, Danton meurt comme il a vécu, en parlant de son sujet favori, ses testicules, qu'il trouve très formidables, et en se moquant d'un infirme. Je cite Danton, les derniers mots de Danton. « Si je laissais mes couilles à Robespierre et mes jambes à Couthon, ça pourrait encore aller quelque temps au comité de salut public. » Danton, Camille Desmoulins et quelques autres sont guillotinés le 16 germinal en deux. Moins de 4 mois sépareront cette exécution de celle de Robespierre. Alors bien sûr, Robespierre n'est pas parfait. Il est humain, et comme tout être humain, il peut et doit aussi être critiqué. Mais si je peux me permettre ici de donner mon point de vue, très personnel et peut-être pas assez bien informé, j'aurais tendance à penser que la bonne critique de Robespierre est celle qu'aura formulée Marat. Oui, Marat. Marat et Robespierre se respectaient, mais ils se fréquentaient peu, voire pas. Le 3 mai 1792, évoquant une entrevue pendant laquelle il venait défrayer Robespierre par la violence et la radicalité de ses propos, Marat avait écrit dans un numéro de l'Ami du Peuple « Cette entrevue me confirma dans l'opinion que j'avais toujours eue de lui, qu'il réunissait aux lumières d'un sage sénateur l'intégrité d'un véritable homme de bien et le zèle d'un vrai patriote, mais qu'il manquait également des vues et de l'audace d'un véritable homme d'État. » Alors voilà ce que je me dis. Je me dis que l'erreur commise par Robespierre aura moins été de vouloir faire appliquer ses principes par la violence, c'est vraiment pas son style, que de ne pas avoir vu assez tôt qu'en acceptant d'entrer au comité de salut public, il allait devoir ménager les différentes tendances de celui-ci. Des tendances dont certaines lui seraient insupportables par leur violence, justement. Et qu'elle allait entraîner non seulement sa mort, mais l'attribution posthume des injustices de celle-ci à son propre cas, la légende noire. Robespierre pensait peut-être qu'en se pliant parfois aux décisions des autres, les Barère, les Carnot, les Billaud-Varennes, les Collot d'Arbois, il réussirait, à force de patience, de sérieux, d'abnégation, et à l'aide de ses amis, Couthon et Saint-Just, à faire triompher son projet politique. Nous savons déjà que ce ne sera pas le cas. Le calendrier est étrange au pays des boussoles affolées. Pendant une dizaine de jours, malgré des joues de plus en plus creusées, des yeux fatigués qu'il protège avec des lunettes vertes, le vert des yeux décrit par Desnos dans la transe, Robespierre va être omniprésent au comité de salut public, à la Convention et aux Jacobins. Puis soudain, il disparaît complètement pendant 3 semaines. Et le 18 Floréal en deux, il revient pour instaurer par décret le culte de l'être suprême. Le rapport qu'il présente alors au nom du comité de salut public contient des passages devenus légendaires. Je cite le rapport de Robespierre. « Oui, cette terre délicieuse que nous habitons et que la nature caresse avec prédilection est faite pour être le domaine de la liberté et du bonheur. Ce peuple sensible et fier est vraiment né pour la gloire et la vertu. En Europe, un laboureur, un artisan sont des animaux dressés pour le plaisir d'un noble. En France, les nobles cherchent à se transformer en laboureurs et en artisans. L'art de gouverner a été jusqu'à nos jours l'art de tromper et de corrompre les hommes. Il ne doit être que celui de les éclairer et de les rendre meilleurs. Le poète Gérard de Nerval évoquera le culte de l'être suprême à plusieurs reprises dans « Les Illuminés », son livre de 1852 sur les précurseurs du socialisme. Je cite Nerval. « Les matérialistes, écrit Nerval au sujet de Robespierre, n'entendirent pas avec plaisir les opinions qu'il exprima à la Convention sur la nécessité d'un culte public. » Tu m'étonnes. Dans ce rapport, après avoir assimilé les ennemis de la Révolution aux philosophes des Lumières, Robespierre convoque Jean-Jacques Rousseau. « Un homme, par l'élévation de son âme et par la grandeur de son caractère, se montra digne du ministère de précepteur du genre humain. » Ce que Nerval commente ainsi. « Rousseau est le seul, entre les maîtres de la philosophie du XVIIIe siècle, qui se soit préoccupé sérieusement des grands mystères de l'âme humaine et qui manifestait un sentiment religieux positif. C'est vrai. C'est le seul authentique sans-roi du XVIIIe siècle. Et c'est un bon repère pour la mise en pratique d'une spiritualité révolutionnaire. De plus, la fête de l'être suprême rappelle, dans la terminologie que Robespierre emploie, l'opposition de la fête populaire au spectacle de la fin de la lettre à D'Alembert. Le plus magnifique de tous les spectacles, c'est celui d'un grand peuple assemblé, écrit Robespierre, mais on aurait pu croire que c'est du copier-coller de Rousseau. Rassemblez les hommes, vous les rendrez meilleurs, car les hommes rassemblés chercheront à se plaire. Ils ne pourront se plaire que par les choses qui les rendent estimables. Parti hop, parti man. C'est la volonté de remettre la fête populaire au cœur de l'exercice démocratique qui est au cœur de ce culte étrange. Cette fête de l'être suprême va devenir chez certains le pic de leur critique de Robespierre. Michelet, Quinet, Hollard ont vu alors en Robespierre un homme qui aurait voulu restaurer la religion qui venait d'être dissoute par la Révolution. Oui et non. Oui, parce que Robespierre croyait en Dieu et voulait conserver la liberté de culte. Non, parce que c'est oublier une chose importante. Une semaine plus tard, le 25 Floréal en deux, Robespierre va prendre la défense d'un député montagnard athée, Joseph Lequignot, disant que la Convention ne doit pas surveiller les consciences de chacun. Le culte de l'être suprême n'est pas une criminalisation de l'athéisme. Nope. Cette fête de l'être suprême qui nous semble si étrange aujourd'hui, il faut l'avouer un peu kitsch. Robespierre lui-même la présidente dans un costume bleu ciel, un bouquet de fleurs dans les mains, comme un enfant timide qui célèbre la fête de son père, écrit Nerval. Cette fête est alors accueillie avec un enthousiasme inimaginable. Entre 300 000 et 400 000 sur les 550 000 Parisiens auraient fêté celle-ci. C'est énorme! Aux Tuileries, le peintre David fait construire une montagne artificielle sur laquelle a été dressée une effigie de l'athéisme entourée de petites effigies représentant l'ambition, l'égoïsme, la discorde et la fausse simplicité. Et on brûle ces effigies comme des rois de paille de carnaval. Un témoin, Joachim Villatt, dit que Robespierre paraissait heureux dans cette ville transformée en une sorte de Paisley Park, funky et sobre, propre et sexy. Il était d'autant plus heureux que les armées étaient victorieuses. Et il était bien clair qu'il n'était pas question de continuer les guerres, puisque du point de vue de Robespierre, il n'était pas question de faire des guerres de conquête. La République sociale allait enfin pouvoir commencer. Dream, dreamer.
What did he do in the dream?
C'était sans compter tous les ennemis que Robespierre s'était fait. Pour commencer, les envoyer en mission, rappelés à Paris à la suite de leur violence contre les populations. Fouché, Carrier, Barras, Tallien, Fréron. Ensuite, au sein du comité de salut public, plusieurs membres. En particulier, Lazare Carnot, l'organisateur de la victoire. Foudrage, parce que Robespierre estime qu'il n'est plus nécessaire de continuer la guerre puisque nous ne sommes plus en danger. Alors qu'il y aurait tant de rapines et de pillages à faire. Enfin, les membres du comité de sûreté générale, les guillotineurs en folie, qui estiment à juste titre que Robespierre cherche à diminuer leur influence. C'est le président du comité de sûreté générale, Marc-Guillaume Alexis Vadier, qui dégaine opportunément l'affaire Catherine Théo, le 26 Prairial en deux, pour accuser Robespierre de vouloir instaurer une dictature dont il serait le chef politique et religieux. Qui est Catherine Théo? C'est une voyante de 80 ans, qu'on surnomme la Mère de Dieu. Elle vit sur la rue Blainville, au numéro 9, près de la place de la Contrescarpe. Extrêmement maigre, elle doit être soutenue par deux assistantes pour se déplacer de son lit à son fauteuil. Contre de faibles sommes d'argent, elle annonce l'avenir aux pauvres gens. La Mère de Dieu adore Robespierre, qu'elle considère comme le prophète d'un messie consolateur des pauvres, et elle interprète son rôle dans la Révolution à partir des prophéties d'Ézéchiel et de l'Apocalypse de Jean. Je cite Catherine Théo. Il est temps que nos malheurs finissent. Dieu s'est caché, mais il s'est abaissé vers notre mère pour se placer en elle. Les ministres du serpent seront détruits. Oui, c'est cette octogonaire Kakoshim qu'on veut dépeindre comme la complice principale de l'aspirant dictateur. Cette pauvre vieille femme inoffensive que le comité de sûreté générale ordonne de traduire au tribunal révolutionnaire. Alors là, Robespierre, pourtant déjà très malade, intervient énergiquement pour obtenir l'annulation du procès. Cette intervention sera la dernière victoire remportée par Robespierre contre le comité de sûreté générale. Après la chute de Robespierre en Thermidor, Catherine Théot sera à nouveau arrêtée, jugée et acquittée. Plus étrange, la mère de Dieu aurait dit alors au tribunal « Je ne périrai pas sur l'échafaud, un événement qui jettera l'épouvante dans Paris annoncera ma mort. » Une prophétie de l'explosion de la poudrerie de Grenelle, située entre Javel et les Invalides, la plus grande catastrophe industrielle de l'histoire de France, plus de 1000 morts, qui survient au moment du trépas de Catherine Théot, le 14 Fructidor de l'an 2. De plus en plus malade, Robespierre cesse d'assister aux réunions du comité de salut public jusqu'au 5 Thermidor an 2. Il ne sort plus. Le 22 Messidor an 2, on sait qu'il est quand même sorti un peu se promener avec son chien. Il est chancelant, il est allé s'asseoir près d'un pré en pente, il est resté plusieurs heures les mains dans l'herbe. Et puis le 8 Thermidor an 2, Robespierre reparaît à la tribune de la Convention à l'improviste. Il s'était absenté pendant 43 jours. « Ici, j'ai besoin d'épancher mon cœur », déclare alors Robespierre. Ne croyez pas que je vienne ici intenter aucune accusation. Un besoin plus pressant m'occupe. Je viens, s'il est possible, dissiper de cruelles erreurs. Alors Robespierre va faire quelque chose de très bizarre et de pas très stratégique. Il va répondre aux attaques contre lui, mais sans désigner ses adversaires. Je cite Robespierre. Je n'ose les nommer dans ce moment et dans ce lieu. Je ne puis me résoudre à déchirer entièrement le voile qui couvre ce profond mystère d'iniquité. Dans quelles mains sont aujourd'hui les armées, les finances et l'administration intérieure de la République ? Dans celle de la coalition qui me poursuit. Il explique qu'on est en train de mettre sur son dos tous les crimes de ces derniers mois. On s'est attaché particulièrement à prouver que le tribunal révolutionnaire était un tribunal de sang, créé par moi seul, et que je maîtrisais absolument pour faire égorger tous les gens de bien. Et encore, mon pauvre... Tu n'as pas vu le film du bicentenaire. Toujours sans citer aucun nom. Robespierre se défend des crimes qu'on est en train de lui imputer. Est-ce nous qui avons plongé dans les cachots les patriotes et porté la terreur dans toutes les conditions? Est-ce nous qui, oubliant les crimes de l'aristocratie et protégeant les traîtres, avons déclaré la guerre aux citoyens paisibles, érigés en crimes ou des préjugés incurables ou des choses indifférentes, pour trouver partout des coupables et rendre la révolution redoutable au peuple même? Il ne reconnaît venant de sa part qu'une poignée de punitions sévères, celles contre les hébertistes et celles concernant les dantonistes. Je vois le monde peuplé de dupes et de fripons. Mais le nombre des fripons est le plus petit. Ce sont eux qu'il faut punir des crimes et des malheurs du monde. Enfin, il s'oppose au portrait qu'on va faire de lui d'ici 48 heures et pour les 200 ans à venir. Mais il ne dit toujours pas qui sont ses accusateurs. Ce qu'il dit, c'est qu'on va en finir avec lui. Et il annonce quasiment la dictature militaire, c'est-à-dire Napoléon. Je cite Robespierre. « Laissez flotter un moment les rênes de la Révolution, vous verrez le despotisme militaire s'en emparer. » Le lendemain, le 9 Thermidor an 2, Robespierre demande à s'exprimer à la Convention. Il en est empêché. Peut-être cette fois-ci aurait-il cité les noms de ses ennemis ? On ne sait pas, on ne saura jamais. Louché ! Un quasi-inconnu, qu'on saura plus tard être un proche de Fouché, demande un décret d'accusation contre lui. Dès que l'arrestation de Robespierre et de ses amis est connue, la Commune vote une motion d'insurrection. Les forces insurrectionnelles parisiennes se massent sur la place de Grève pour libérer les prisonniers. Robespierre refuse d'abord de les rejoindre. Il ne veut pas sortir de la légalité. Marat aurait halluciné.
What the fuck is that?
La Convention charge l'ordure criminelle Barras du commandement militaire. Barras fait décréter la mise hors la loi des députés rebelles et des insurgés et rassemble les troupes provenant des sections bourgeoises de l'Ouest et du Centre. C'est une fois décrété hors la loi que Robespierre accepte de rejoindre la Commune à l'Hôtel de Ville. Ses partisans le pressent de faire une proclamation au peuple parisien afin de les faire combattre les forces de la Convention. Mais Robespierre refuse à nouveau. Marat aurait hurlé. Les troupes envoyées par la Convention entrent dans l'hôtel de ville. Saint-Just se laisse arrêter. Couton est poussé dans l'escalier. Robespierre est blessé à la joue. On prétendra qu'il aurait tenté de se suicider. Mais se suicider d'une balle dans la joue, c'est bizarre, même pour Robespierre. Une explication plus plausible, c'est qu'il aurait reçu une balle dans le visage tirée par le gendarme venu l'arrêter. Un gendarme dénommé Merda. Ça s'invente pas. Et le dit Thermidor en deux. Robespierre, Saint-Just et Couton sont condamnés sans procès et guillotinés. On jette leurs restes dans une fosse commune et on répand de la chaux pour que leur corps ne laisse aucune trace. C'est fini. Dans un cahier tenu entre 1793 et 1794, Saint-Just notait des fragments d'institutions républicaines. Publiés à titre posthume, ces fragments peuvent nous informer de l'état d'esprit du jeune homme alors qu'il siégeait au comité de salut public. Et cet état d'esprit n'était pas au beau fixe, c'est le moins qu'on puisse dire. Je cite Saint-Just. « La révolution est glacée. Tous les principes sont affaiblis. Il ne reste que les bonnets rouges portés par l'intrigue. » L'exercice de la terreur a blasé le crime, comme les liqueurs fortes blasent le palais. Ces fragments nous informent aussi de tout ce que Saint-Just, et sans doute Robespierre et Couton avec lui, avaient l'intention d'instituer dans leur République, une fois celle-ci sauvée des guerres extérieures et intérieures. La terreur peut nous débarrasser de la monarchie et de l'aristocratie, mais qui nous délivrera de la corruption, des institutions ? Il est essentiel dans les révolutions où la perversité et la vertu jouent de si grands rôles de prononcer très nettement tous les principes, toutes les définitions. Il y a des choses étonnantes dans ces fragments, des principes remarquables. La liberté de culte, bien évidemment, mais aussi le rachat de tous les esclaves appartenant à des colonies non françaises pour être libérés à l'instant même. Et puis l'interdiction du mariage d'intérêt. Les époux doivent s'unir par tendresse, écrit Saint-Just. L'interdiction de frapper son enfant. La répression sévère de la violence faite aux femmes. Celui qui frappe une femme est banni. La punition principale de cette république à venir est le bannissement. Mais le soldat qui a commis une violence ou ne serait-ce qu'un seul vol en pays ennemi est puni de mort. Les institutions républicaines rédigées par Saint-Just instaurent un renversement dans la sévérité des lois. Elles sont plus sévères à mesure qu'on monte dans la hiérarchie sociale. Généreuses vis-à-vis des faibles, elles sont impitoyables avec les puissants. Je cite Saint-Just. Il ne faut jamais faire peur au peuple, il faut faire peur à ceux qui gouvernent. Pour cela, Saint-Just prône une économie dirigée qui empêche un certain niveau d'enrichissement. Il ne faut ni riches ni pauvres, mais aussi des lois qui laisse le peuple le plus libre possible et le rende fort face à ceux qui le dirigent. La liberté du peuple est dans sa vie privée. Ne la troublez point. Il s'agit moins de rendre un peuple heureux que de l'empêcher d'être malheureux. N'opprimez pas, voilà tout. Chacun saura bien trouver sa félicité. Un malheureux est au-dessus du gouvernement et des puissances de la terre. Il doit leur parler en maître. Il faut une doctrine qui mette en pratique ses principes et assure l'aisance au peuple tout entier. On est très loin de la dictature, très loin du retour de la monarchie ou de la théocratie. Et pourtant, dès le dit Thermidor de l'an 2, les Thermidoriens vont commencer une large campagne de désinformation. Cette campagne, dans la continuité de l'affaire Catherine Théo, va présenter Robespierre comme un aspirant dictateur voulant se faire roi et messie. Tout d'abord, c'est Barrère. Barrère qui annonce à la Convention la découverte d'un cachet à fleur de lys appartenant à Robespierre. Et il prétend que Robespierre aurait tenté de libérer les enfants royaux de la prison du Temple. Robespierre, royaliste masqué. C'est 30 ans plus tard que Marc-Antoine Baudot, pourtant très hostile à Robespierre, dira que le cachet à fleur de lys n'avait jamais existé. C'était une manipulation concertée de leur part pour influencer le peuple. C'est du joli. Puis c'est au tour de Barras. Barras qui déclare que la fille de Louis XVI était la maîtresse de Robespierre. Et le 27 Thermidor en deux. Toujours la même convention, toujours le même Barras, prétend que Robespierre recevait à Monceau des concubines qu'il entretenait aux frais de l'État. Et il dénonce également les lieux de plaisance où Saint-Just, Robespierre et Couthon se livraient à tous les excès. Des rumeurs folles et basées sur rien vont dire que Robespierre avait fait construire une guillotine à 7 fenêtres, qu'il voulait créer des machines permettant d'exécuter 3000 personnes à la fois, voire qu'il possédait une tannerie de peau humaine. Ça, c'est pour la personne de Robespierre et ses deux amis. Et pour leur politique ? Eh ben, pour leur politique, c'est bien simple. Dès leur mort, on annule tout. Le 27 Brumaire en 3. Suppression de la gratuité et de l'obligation scolaire. Le 4 Niveaux en 3. Suppression du maximum général et rétablissement de la liberté commerciale. Le 5 Messidor en 3. Boissy d'Anglas nous annonce la suite. Vous devez garantir enfin la propriété du riche. L'égalité civile, voilà tout ce que l'homme raisonnable peut exiger. L'égalité absolue est une chimère. Pour qu'elle puisse exister, il faudrait qu'il existât une égalité entière dans l'esprit, la vertu, la force physique, l'éducation, la fortune de tous les hommes. Cette bande d'ordure ! Mais cette bande d'ordure ! Enfin, le 5 Fructidor en 3. Coup d'État parlementaire qui remplace la constitution légale de 1793 par un texte établissant un suffrage censitaire. Boissy d'Anglas déclare « Un pays gouverné par les propriétaires et dans l'ordre social ». Conséquence inévitable de leur politique économique, de nouvelles famines. Et dès le 12 Germinal en 3, des émeutes de la faim réprimées avec violence. Le dernier rempart de la République sociale porte alors un nom, Gracchus Babeuf. Initialement hostile à Robespierre, l'accusant même dans un premier temps des crimes de Carrier en Vendée. Il va se reprendre, comprendre son erreur et le réévaluer. « Rendons à sa mémoire son tribut légitime », écrira Babeuf à Joseph Botson qui marchait encore à la légende noire du méchant Robespierre. « Le robespierrisme est dans toute la République, dans toute la classe judicieuse et clairvoyante et naturellement dans le peuple ». La raison en est simple, c'est que le robespierrisme, c'est la démocratie. Et ces deux mots sont parfaitement identiques. Donc, en relevant le robespierrisme, vous êtes sûr de relever la démocratie. Arrêté pour outrage envers la Convention, le 19 Pluviose en 3. Puis remis en liberté le 26 Vendémiaire en 4. Gracchus Babeuf va former la Conjuration des égaux. Sous un gouvernement de plus en plus répressif, celui du directoire, le but de cette conjuration est de retourner à la Constitution de 1793, puis aboutir à la collectivisation des terres et des moyens de production. Oui, Babeuf invente le communisme. Osons dire que la Révolution, malgré tous les obstacles et toutes les oppositions, a avancé jusqu'au 9 Thermidor et qu'elle a reculé depuis. Lazare Carnot. Lazare Carnot fait voter une loi punissant de mort l'apologie de la Constitution de 1793. Babeuf est arrêté et guillotiné. Et les guerres de conquête vont prendre le plus bel essor avec Bonaparte, changé en Napoléon, qui fera de la France, de nouveau, comme avec Louis XIV, une menace pour le monde entier. Napoléon sera très clair en 1810. La guerre est la source de la richesse nationale. Trop fou, trop dangereux, le sanguinaire Carrier va être lâché par ses amis de Thermidor. Il est guillotiné en place de grève le 26 Frimaire en 3 après avoir dit devant le tribunal révolutionnaire « Tout est coupable ici jusqu'à la sonnette du président ». Mais à part lui, toutes les ordures qui avaient procédé à des massacres de population puis s'étaient ensuite liguées contre Robespierre vont être purement et simplement recyclées par le directoire puis par Bonaparte. C'est Barras qui va présenter sa maîtresse, Joséphine de Beauharnais, au futur César. Talien partira en Égypte avec Bonaparte. Fréron entretiendra une liaison avec la sœur de celui-ci, Pauline. Et Bonaparte en fera son sous-préfet à Saint-Domingue lors de la guerre d'indépendance menée par Toussaint Louverture. Quant à Fouché, le responsable des massacres de Lyon, il va être ministre de la police, sous le directoire, sous le consulat, sous l'Empire et sous la Seconde Restauration. Et un des pires démons qu'aura connu notre histoire. Bonaparte arrive au pouvoir par le coup d'État du 18 Brumaire en 8. À partir du lendemain, retour au calendrier julien et plus d'élections. Privés de parole, les Français crèveront de faim et se feront tuer à la guerre pour le luxe d'une minorité de salopards. Napoléon sera premier empereur des Français du 18 mai 1804 au 6 avril 1814 et du 20 mars au 22 juin 1815, ce que le mange-merde de Jacques Bainville appellera un trop bref âge d'or. Trop bref âge d'or. Mais ton trop bref âge d'or, pauvre type, n'a toujours pas pris fin. La légende noire de Robespierre, que cette bande d'immondes crapules aura écrite, aura la vie dure. Jusqu'à aujourd'hui. Comme écrit Toulouse Larousse dans son livre « Doléances, dernière mesure révolutionnaire » publié en 2021, faute de pouvoir le faire disparaître, on l'a surchargé de tous les péchés du monde révolutionnaire jusqu'à en produire la plus abjecte des caricatures. Malgré beaucoup de travaux historiographiques sérieux venant d'historiens sérieux. Et on peut en citer quelques-uns. Albert Mathier et Albert Soboul, bien sûr. Mais aussi Hervé Levers, Cécile Obligy, Marc Bélissa, Yannick Bosque, Fabienne Gauthier, Sophie Vanisch, et malgré les deux vulgarisateurs historiques les plus attachants du XXe siècle, Alain Decaux et Henri Guillemin. Cœur sur vous, les mecs. Malgré tout cela, Robespierre et Saint-Just seront les grands absents des tristement fameuses commémorations de 1989. Ils ne seront pas oubliés de tous. Dans ses souvenirs sur Arthur Rimbaud, son ami d'enfance, Ernest Delahaye, évoque le jugement très sévère que le plus grand poète de langue française portait sur Napoléon alors qu'il n'avait que 16 ans. En France, il a tout gâché. Sens artistique, sens littéraire, l'administration, l'instruction publique. En Europe, avec toutes ses tueries, il n'a rien empêché, rien fixé, rien fait. Mais il a donné aux ennemis de son pays une force qu'il n'avait jamais eue. Il n'a pensé qu'à rester, à se traîner, si longtemps qu'il pouvait, par des moyens surannés et enfantins, la conquête, la gloire, à la tête de quelques centaines d'individus qui l'ont jeté dehors, comme un chien galeux, quand il n'a plus été bon à rien. Ce jugement de Rimbaud est connu, hein. Mais on cite moins souvent le fait que vers 1870, toujours selon Delahaye, le poète écrivait dans ses devoirs de classe « Robespierre, Saint-Just, Couthon, les jeunes vous attendent. La terreur et la vertu. » L'émission télévisée produite par Alain Decaux, qui rendait justice à Robespierre et Saint-Just, ira jusqu'à émouvoir le vieil André Breton, qui dira le 10 décembre 1964, à moins de 2 ans de sa mort, « J'estime qu'ici, dans ce pays en particulier, la situation eût-elle considérablement empiré, la gauche serait appelée à renaître de ses cendres. Je m'en assurais, assistant il y a quelques semaines à la terreur et la vertu. J'évaluais le nombre de jeunes esprits qui allaient en garder l'empreinte et me persuader que rien n'était perdu. Les noms de Robespierre et de Saint-Just, même si pour l'instant une rumeur de troupeau les couvre, n'ont pas fini de résonner sous le pavé de Paris. » 1964, 4 ans avant 68. Toutes les boussoles sont folles. Et en 1989, l'année du bicentenaire, le grand, l'immense Cavana, cofondateur d'Harakiri et du véritable Charlie Hebdo, fera partie, avec son ami Volinsky, mais aussi Jacques Vergès, le professeur Schwarzenberg et quelques autres, d'une association pour Robespierre, voulant réparer une des plus grandes injustices de la ville, l'absence de rue Robespierre. Alors que les Danton, les Mirabeau, les Lafayette expliquent alors Cavana au Nouvel Observateur.
Coucou Delfeuille.
C'est-à-dire les plus suspects parmi les acteurs de la Révolution, pour ne pas dire les plus pourris ou les plus vendus, sont honorés et ont leur rue dans la capitale, alors que Bonaparte, étrangleur de la République, a la sienne dans le Paris républicain. Robespierre est voué à l'oubli quand ce n'est pas à l'exécration. La Révolution généreuse, c'est l'arbre de la liberté, pas la machine à tuer. C'est Robespierre adversaire de la peine de mort, Robespierre farouchement opposé à la guerre, punissant les affameurs, établissant le suffrage universel, proclamant le droit sacré à l'insurrection. Robespierre abattu finalement par les pires scélérats d'entre les terroristes au moment même où il voulait faire cesser la terreur. C'est fini. Cette histoire peut nous laisser un goût amer dans la bouche. À la différence de celle de Jeanne la gauchiste, on ne peut pas clore l'histoire de la Révolution en disant « ce qu'il voulait a eu lieu, même s'ils ne furent pas là pour le voir ». Jeanne voulait libérer la France de la domination anglaise, elle est morte, puis cette domination a cessé. Ce que Marat, Robespierre ou Saint-Just voulaient, la République sociale, la fin de la pauvreté, n'a pas eu lieu. C'est donc une histoire difficile à concevoir, difficile à comprendre comme à conclure. Et celle-ci est encore un sujet de division, de controverse, de combat. Mais c'est surtout parce que celle-ci est encore une histoire escamotée, une histoire volée. Non seulement la Révolution a été détournée au profit de la bourgeoisie, mais cette dernière aura mis le paquet pour en faire un récit grotesque et tapageur à la gloire de ses héros. Tous les blaireaux, Lafayette, Brissot, Danton, et même Louis XVI. Louis XVI réhabilité mollement tous les 10 ans. Royalistes, girondins ou dantonistes ne s'entendront pas, certes, mais ils s'entendront tous quand même assez pour se mettre d'accord sur un point. Faire de Marat un excité sanguinaire et de Robespierre et Saint-Just les responsables de tous les crimes de leur époque. Même les crimes qui se sont déroulés sans eux, face auxquels ils n'avaient aucun pouvoir. Même ceux qu'ils ont tenté d'empêcher. Même ceux contre lesquels ils se sont battus toute leur putain de vie. Mais c'est aussi ce qui fait de la Révolution une histoire encore actuelle. Nous vivons dedans, que nous le sachions ou non, que nous le voulions ou non. Ni de près, ni de loin, celle-ci ne fait partie du passé. Ce dont elle parle nous parle encore. Ses enjeux sont les nôtres. C'est pourquoi elle sera régulièrement convoquée le long des 2 siècles et demi qui vont suivre, de la conjuration des égaux de Babeuf aux Gilets jaunes. À chaque fois que la domination de la bourgeoisie recommencera à vaciller, à chaque fois que ses mensonges peineront à la soutenir.
Macron, tâche de sang ! Macron, décapitation ! Macron ! Putain ! Explosion !
La Révolution est une histoire incomplète, continue à nous souffler Victor Hugo. Ce n'est pas appelé à la guerre civile de dire ça. Cette guerre est déjà là. La guerre des riches contre les pauvres. La plus cruelle des guerres civiles, nous dit Babeuf. Une guerre où les riches sont armés de toutes pièces, les pauvres sont sans défense. Et malgré les nombreuses victoires de l'Empire sur le peuple désarmé, la spiritualité révolutionnaire continue à se transmettre. La parole des sans-rois comme l'action des sans-culottes dans le rêve des poètes, dans leur vie étrange. Cette vie étrange sera à partir du 19e siècle une des modalités centrales de la guerre. Une guerre pas seulement matérielle, mais spirituelle. Et toute spiritualité qui prétend pouvoir l'ignorer n'est pas autre chose qu'un sinistre fourvoiement. Le soir du jour de l'exécution de Louis XVI n'est pas terminé. Les noms de Robespierre et de Saint-Just n'ont pas fini de résonner sous le pavé de Paris. L'Empire n'a jamais pris fin, c'est la vie, notre vie, qui n'a pas encore commencé. Merci d'avoir vu ce dernier épisode de L'Empire n'a jamais pris fin de la saison et rendez-vous l'année prochaine pour une 3e et dernière saison qui ira de Napoléon à Macron. Si cet épisode vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à Blast, activez la cloche. Les 7 épisodes diffusés l'année dernière font désormais l'objet d'un livre aux éditions Florent Massot et Blast. L'Empire n'a jamais pris fin, tome 1 de Jules César à Jeanne d'Arc, en vente dans toutes les bonnes librairies. Un 2e tome correspondant à cette 2e saison sera publié prochainement. Et si vous n'aimez pas cette saison, partant de Rabelais et de la Renaissance, nous a amené à la Révolution et à Robespierre, parce que, comme dit Babeuf, robespierrisme et démocratie, ces 2 mots sont identiques, coupez-moi la tête. Cyprien, bisous. Mehdi, Lacal. Margot, Simon. Morgane, Sabouret. Baptiste, Veillant. Théo, Duchesne. Mathias, Enthoven. Abeyes, Aïtoufela.